Un conflit désormais plus long que celui de 1995, 26e jour de grève ce lundi contre la réforme des retraites, avec une légère amélioration dans les transports parisiens. En attendant la prochaine journée de consultation la semaine prochaine, le gouvernement fait des concessions à plusieurs catégories de personnel. Nous ferons le point avec Annabelle Grelier.
Emmanuel Macron est lui attendu sur cette question lors de ses traditionnels vœux du 31 décembre. Le chef de l'État va jouer l'apaisement, annonce déjà son entourage, alors que le ton est monté d'un cran ce week-end entre la CGT et le secrétaire d'État aux transports.
À suivre également dans ce journal un gros plan sur l'impact économique de la grève avec notre invité François Asselin, président de la CPME qui représente les petites et moyennes entreprises.
À l'étranger, l'Iran accuse ce matin les États-Unis d'avoir montré son soutien au terrorisme. Les Américains ont frappé des bases irakiennes et syriennes d'un mouvement proche du Hezbollah. Une riposte après la mort d'un Américain lors d'une attaque contre une base militaire irakienne. Et c'est une guerre par procuration qui s'installe, nous dira Christian Chéneau.
Des questions suite à l'échange de 200 prisonniers entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. L'opinion a du mal à digérer la décision de Kiev de livrer aux séparatistes 5 anciens policiers accusés d'avoir tiré sur des manifestants de la place Maïdan. Nous appellerons notre correspondant sur place. Dans ce journal encore, la défense de l'écrivain Gabriel Matzneff qui parle d'attaques injustes à son encontre alors que sort un livre qui remet sur le devant de la scène ses relations sexuelles avec de très jeunes mineurs, des relations qu'il a relatées dans de nombreux ouvrages. Nous tenterons de comprendre avec Cécile de Kervas-Doué pourquoi l'affaire a mis tant de temps à faire polémique alors que ses agissements étaient connus. Et puis après ce journal, Raphaël Bourgois, on vous retrouve pour la grande table des idées.
Oui, ce sera à 12h55. On recevra l'essayiste et traducteur Frédéric Joly pour son essai « La langue confisquée aux éditions Premier Parallèle » où il est question de Victor Klemperer qui étudia la langue nazie tout au long du règne d'Hitler, mais aussi il est question d'aujourd'hui à l'heure de la post-vérité.
Au 26e jour de grève contre la réforme des retraites, les usagers des transports parisiens se déplacent plus facilement ce lundi avec seulement 2 lignes de métro fermées. La RATP parle de nette amélioration de trafic. Effet d'annonce, estime de son côté l'UNSA, premier syndicat dans le métro parisien, pour qui le niveau de mobilisation ne faiblit pas. Côté SNCF, en revanche, pas de grands changements avec un TGV sur 2, un Transilien sur 4 et 3 TER sur 10. Alors que les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ne reprendront que dans une semaine, le 7 janvier prochain précisément. Ce qui n'empêche pas le gouvernement d'annoncer de nouveaux gestes ces derniers jours en direction de plusieurs catégories de personnel. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Anne-Laure.
Dernière concession en date, celle faite aux danseurs de l'Opéra.
Oui, le gouvernement a proposé aux danseurs de l'Opéra de Paris l'application de la désormais célèbre clause du grand-père. La nouvelle réforme ne s'appliquerait donc qu'aux danseurs recrutés après le 1er janvier 2022. Une proposition qui pour le moment ne les a pas convaincus. Les danseurs aujourd'hui peuvent partir à la retraite à l'âge de 42 ans. Leur régime spécial est l'un des plus anciens, il date de 1698. C'est Louis XIV qui leur avait octroyé. Emmanuel Macron sera-t-il de taille à leur supprimer ? Le ministre de la Culture, Franck Riester, est chargé, en tout cas en début d'année, de leur faire des propositions pour élaborer un dispositif de reconversion professionnelle. La clause du grand-père donc reste pour le moment la grande concession du gouvernement pour calmer les opposants à la réforme. Clause du grand-père assortie de quelques promesses. Pour les pilotes, hôtesses et stewards, c'est celle de maintenir leur caisse autonome de retraite complémentaire, doté de 5 milliards d'euros de réserve. Fini l'âge de départ à la retraite à 55 ans pour les générations nées après 1987. Mais la possibilité de partir à 60 ans au temps plein leur a cependant été promise. 4 syndicats ont déjà suspendu leur appel à la grève à partir du 3 janvier.
Et la situation se débloque également, Annabelle, avec les routiers et les marins.
Oui, du côté des routiers, ils pourront garder leur dispositif de retraite anticipé 5 ans avant l'âge légal. Reste à formaliser tout ça. Des discussions se tiendront en janvier entre la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne et les organisations patronales. Les marins pêcheurs et commerces ont obtenu également des garanties, salaire forfaitaire, points bonifiés et une transition dans le nouveau système longue de 17 ans. Rappelons que les gendarmes, les pompiers, les surveillants pénitentiaires ou encore les contrôleurs aériens ont rapidement vu confirmer leur droit à des départs anticipés à 57 voire 52 ans au titre de leurs fonctions dangereuses. Reste à négocier en janvier la surcotisation du ministère de l'Intérieur pour remplacer c'est leur bonification spéciale.
Et ça reste un peu plus compliqué, hein, en revanche, pour les personnels soignants.
Oui, alors compliqué ou moins généreux, c'est comme on veut. Le gouvernement leur promet une meilleure prise en compte de la pénibilité et du travail de nuit, mais fini le départ à la retraite possible à 57 ans, ce sera 60 ans au mieux. Quant aux enseignants qui perdraient donc le calcul de leur retraite sur les 6 derniers mois, l'exécutif promet de revaloriser leur salaire progressivement à partir de 2021 et de sanctuariser le niveau de leur pension. Trop flou pour les syndicats qui ont rendez-vous au ministère le 13 janvier. Clause du grand-père, plus mode de calcul avec coefficient avantageux ou encore prise en compte de la pénibilité. Rien de tout ça, en revanche, n'a réussi à amadouer les syndicats de la SNCF et de la RATP, qui restent les plus grosses poches de résistance à cette nouvelle réforme des retraites. Réforme vendue comme universelle, mais de toute évidence, sûrement pas uniforme.
Merci Annabelle Grelier. J'ajoute que les salariés de la raffinerie Total de Grandpuits en Seine-et-Marne diront cet après-midi en Assemblée Générale s'ils continuent de bloquer les expéditions. Si c'est le cas, la direction enclenchera la procédure d'arrêt pour empêcher les cuves de déborder. La raffinerie s'arrêtera alors pour une période indéterminée et les salariés se retrouveront en chômage technique, a déjà prévenu le patron Europe du raffinage au sein du groupe. L'exécutif, lui, en attendant donc ses consultations du 7 janvier prochain, peaufine ses arguments. Édouard Philippe devrait rentrer à Matignon en milieu de semaine pour préparer sa prochaine rencontre avec les partenaires sociaux. Quant à Emmanuel Macron, il devrait s'exprimer sur le sujet demain soir à 20h lors de sa traditionnelle allocution télévisée du 31 décembre. Et son entourage l'a déjà confié, le chef de l'État devrait jouer la carte de l'apaisement, Pierre Neveu.
Oui, depuis qu'a éclaté ce mouvement de contestation autour de la réforme des retraites début décembre, la parole du chef de l'État s'est faite rare, tout juste Emmanuel Macron a-t-il évoqué la séquence de grève et de manifestation lors d'une conférence de presse à l'Élysée, puis lors d'un déplacement en Côte d'Ivoire le 21 décembre dernier, mais c'était là pour appeler à une trêve de la grève à Noël. Depuis, rien. Alors pour patienter, l'Élysée, disent-ils, depuis ce week-end, des éléments de langage. Emmanuel Macron devrait ainsi jouer l'apaisement et rappeler l'esprit de la réforme. Car il ne faut pas laisser les seuls représentants syndicaux, Philippe Martinez, Yves Verrier, occuper la sphère médiatique. Demain donc, au 27e jour de grève, Emmanuel Macron devrait remettre en perspective sa volonté de réformer et de rendre plus juste notre système de retraite. C'est d'ailleurs ce qu'il disait le 31 décembre 2018, il y a un an. Et puis s'il y a un mot sur lequel le chef de l'État est attendu, c'est sur la méthode. Car pour sortir de ces semaines de tension et de bras de fer avec les partenaires sociaux, le président doit clarifier la question de l'âge d'équilibre. Cet âge pivot devenu ligne rouge pour la CFDT. Et c'est justement de ce côté-là que les députés de l'aile gauche et LREM attendent un signal fort du chef de l'État pour ne pas dire une inflexion. On peut moduler cet âge d'équilibre selon la pénibilité, rappelle encore ce matin le député du Vaucluse, Jean-François Cesarini. Mais s'il y a un totem sur lequel Emmanuel Macron ne reviendra pas, car c'est un engagement de campagne auprès de son socle électoral, eh bien, c'est celui de la suppression des régimes spéciaux et de l'instauration d'un régime universel. Engagement qui, de toute façon, ne sera jamais en phase avec les syndicats et partis de gauche qui demandent le retrait pur et simple de cette réforme des retraites.
Merci Pierre Neveu. Et si Emmanuel Macron acceptait de moduler ou de retirer l'âge pivot, cela serait un recul par rapport à ce qui a été annoncé récemment, commentaire ce matin d'Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière chez nos confrères de France Info. Et pour poursuivre le sujet, nous sommes en ligne avec François Asselin, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Alors à la veille de la première journée de mobilisation le 5 décembre, vous donniez déjà l'estimation du coût d'une journée de grève, 400 millions d'euros dont 200 millions en Ile-de-France. Au 26e jour de grève, quelle est aujourd'hui votre estimation de l'impact économique de cette grève contre la réforme des retraites ?
Alors déjà, si vous voulez, ce qu'on peut vous dire avant de rentrer dans des chiffres macroéconomiques, c'est que sur Paris, région parisienne, ce sont des chiffres qui oscillent entre moins 20 et moins 40% de réservations dans ce qui concerne l'hôtellerie et restauration. Et puis ce sont des annulations, hein, c'est-à-dire que ce qui devait être réservé pour le mois de janvier eh bien, est en train d'être annulé parce que, comme vous le savez, la grève continuera avec cette journée de mobilisation du 9 janvier et donc tous ceux qui ont besoin de se rendre dans la capitale ou même ailleurs en France et ont besoin de prendre un moyen de transport type SNCF ou RATP, eh bien, préfèrent sursoir leur déplacement, ce qui fait que les plus exposés, ce sont les PME, les TPE, avec des salariés qui sont pleins d'abnégation et beaucoup de courage pour se rendre sur leur lieu de travail, parce qu'ils ont des temps de déplacement énormes, avec parfois des attentes sur le quai où on ne voit rien venir, rien arriver. Et pourtant, il faut bien travailler, parce que si on ne travaille pas à la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Ce sont des gens qui, au passage, n'ont pas la sécurité de l'emploi. Et puis quand on parle du commerçant, si lui doit baisser le rideau parce qu'il n'a pas de chiffre d'affaires, il n'a même pas de chômage. Donc autant vous dire que ceux qui aujourd'hui bloquent la France sont dans des conditions extrêmement favorables puisqu'elles ont la garantie de l'emploi et elles font souffrir beaucoup de petites gens. Ce sont nos artisans, nos commerçants et puis beaucoup de petites entreprises.
Donc François Asselin, vous reprenez à votre compte les propos du secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari qui estime que la CGT pratique un syndicalisme de blocage et même d'intimidation.
Ben, citez-moi, allez, ces 10 dernières années, un accord interprofessionnel qu'a pu signer la CGT. Jamais la CGT ne signe quoi que ce soit. Elle veut bien venir autour de table, mais c'est pour dire, on n'en veut pas. Quoi qu'il arrive, c'est non. Comment voulez-vous avancer dans ce pays avec des gens qui ont une vision aussi radicale du dialogue social? C'est ça qui est très compliqué à comprendre pour nous et pour beaucoup de Français. Cette réforme des retraites, bien sûr qu'elle est perfectible. Il y a des volets sur lesquels elle ne nous convient pas. Mais force est de constater que pour certains d'entre nous, avoir par exemple 1000 euros de retraite minimum, ça fait rêver plus d'un agriculteur, plus d'un commerçant, plus d'un artisan. Donc il y a aussi des choses tout à fait positives. Parlait de la pénibilité, mais on oublie de parler aussi des carrières longues. Elles sont toujours dans le dispositif. C'est quoi une carrière longue? C'est quelqu'un qui commence à travailler avant 20 ans, souvent l'apprentissage, et qui pourra continuer à partir plus tôt en retraite.
Alors, on comprend que vous voyez certains aspects positifs à cette réforme. Est-ce que, malgré tout, cette escalade est souhaitable, hein, puisqu'on a aussi de l'autre côté Philippe Martinez qui accuse le gouvernement d'organiser le bordel. Est-ce que cette escalade est souhaitable alors que les négociations doivent reprendre la semaine prochaine?
Bien sûr que non, mais comment faites-vous? Vous savez, pour dialoguer, il faut être deux. Il y a des gens qui sont prêts à dialoguer et d'autres qui disent depuis le départ, on ne dialoguera pas, ça sera non quoi qu'il arrive. Comment faire pour avancer? Vous avez des syndicats qui, eux, sont prêts à dialoguer. Il y a l'UNSA, il y a la CFDT, il y a la CFTC. Ce sont des syndicats qui ont toujours eu cette culture du dialogue, quand bien même on n'est pas d'accord sur tout, mais comment être d'accord sur tout? C'est la vie où parfois il faut faire des compromis. Là, nous avons un syndicat qui est extrêmement radical dans ses positions, la CGT, et cette escalade, malheureusement, vous savez, dès le départ, à partir du moment où on dit non, c'est eux qui sont à l'origine de, malheureusement, cette escalade.
Alors François Asselin, il va falloir quand même en sortir. On voit que le gouvernement est prêt à faire des concessions. On en parlait au début de ce journal, que ce soit pour les danseurs de l'opéra, les marins, les salariés d'EDF, les pilotes, les personnels navigants commerciaux. Est-ce que ce futur régime universel ne commence pas à être sérieusement miné?
Alors, vous savez, en tout cas, il est très révélateur. Révélateur de quoi? C'est qu'il y a des pans entiers de notre pays, de certains actifs, beaucoup dans la fonction publique, où tant qu'on n'a pas réformé le travail dans ces métiers concernés, eh bien, on n'arrivera pas à mettre en place un système de retraite qui puisse leur convenir. C'est le cas, par exemple, de l'éducation nationale, où on s'aperçoit que, par exemple, l'échelle de salaire est en inadéquation avec, on va dire, le régime général, où les retraites sont beaucoup plus, où les salaires sont beaucoup plus progressifs. Donc, c'est ce que révèle cette réforme des retraites. Peut-être que le gouvernement n'avait pas très bien anticipé tout cela, d'ailleurs.
Et donc, il est allé trop vite en besogne.
Ah, peut-être, oui, ou parfois pas assez à l'écoute. Faut bien l'admettre aussi. Il n'y a pas eu que des actes toujours très heureux dans cette réforme des retraites. Mais pour autant, le gouvernement est en train de déminer, ou en tout cas de compartimenter la négociation par type de secteur pour éviter, bien évidemment, qu'un blocage s'additionne à un autre.
Et c'est une bonne stratégie, vous l'appelez de vos voeux? Vous la condamnez?
Il n'y a pas beaucoup de stratégies. Ce que nous disons, nous, à la CPME, et nous représentons avant tout ceux qui sont dans le secteur marchand, c'est quand même pas loin de 18 millions d'actifs, mine de rien, sur 29 millions. Ce que nous disons, il ne faudrait pas que cette réforme soit universelle pour certains et reste exceptionnelle pour d'autres. Parce qu'il y a une question, tout simplement, d'équité entre tous les Français, entre tout type d'actifs. Un travailleur reste un travailleur, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit salarié du secteur marchand ou qu'il soit indépendant.
Alors demain, Emmanuel Macron prononcera, on l'a dit aussi, ses traditionnels vœux du 31 décembre. Qu'attendez-vous de cette intervention? Est-ce que vous appelez de vos vœux des annonces concrètes? Là, on parle plutôt d'un discours qui jouerait l'apaisement, peut-être moins d'annonces concrètes.
Oh, c'est des périodes de l'année où on attend bien évidemment de la part du chef de l'État un discours plutôt d'apaisement et de perspective. Alors les perspectives, on les a déjà sur cette réforme des retraites, puisque comme vous le savez, nous engageons dès la rentrée des concertations sur 4 nouvelles thématiques, entre autres la pénibilité, entre autres les carrières longues. Il y a encore beaucoup de grains à moudre autour de cette réforme. Et en même temps, je pense que le chef de l'État ne lâchera pas sur le calendrier prévu, à savoir un passage en Conseil des ministres le 22 janvier, et puis un projet de loi pour le mois de février. Pourquoi? Parce que si jamais elle reculait sur cette réforme des retraites, eh bien tout simplement, je pense que la suite du quinquennat serait très compliquée pour l'ensemble de l'exécutif.
François Asselin, je reviens sur l'impact macroéconomique. Il devrait rester quand même limité. Les grèves de 95 n'avaient coûté que 0,2 points de PIB. Il y a 10 jours, ni l'INSEE ni la Banque de France ne modifiaient leurs prévisions de croissance pour le dernier trimestre. Est-ce que ces instituts vont devoir ajuster le tir, selon vous? Quelles sont vos estimations, à ce stade?
Alors, si vous voulez, ce qui est très compliqué à évaluer, c'est que effectivement, ce qui bloque tout un pays, c'est lorsque, par exemple, les centres de ravitaillement, enfin de carburant, sont bloqués. Là, d'un seul coup, il y avait toute l'économie qui est en panne. Aujourd'hui, c'est surtout les transports ferroviaires qui sont en panne avec les RATP, ce qui fait que ça touche avant tout, on va dire, les grands centres urbains. Et lorsque c'est un centre urbain qui est touché, c'est plutôt le petit commerce, c'est plutôt la petite entreprise qui est touchée. Et donc, elle est extrêmement atomisée, parcellaire. C'est-à-dire que c'est très dur d'établir des chiffres macroéconomiques. Ce qui va se passer, c'est que dans les semaines et dans les mois qui vont venir, malheureusement, et c'est regrettable, mais vous aurez des commerces, vous aurez des entreprises qui vont baisser le rideau. Et ça ne se verra pas. Et pourtant, derrière, il y a des drames humains, il ne faudrait pas les oublier.
Merci beaucoup à François Asselin, président de la CPME, d'avoir été en ligne avec nous et en direct dans ce journal. 12h46 sur France Culture et l'actualité internationale à présent avec l'Iran qui réagit ce matin aux frappes menées hier soir par les États-Unis en représailles de la mort d'un Américain dans une attaque contre une base militaire irakienne. Téhéran accuse Washington d'avoir montré son soutien au terrorisme. Les États-Unis doivent assumer les conséquences de cet acte illégal, a aussi déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'armée américaine a frappé 5 bases en Irak et en Syrie, des unités d'un mouvement proche du Hezbollah pro-iranien. Des attaques qui ont fait 25 morts. Christian Chesneau, bonjour.
Bonjour.
C'est finalement là une guerre par procuration qui s'installe.
Oui, faute de vouloir s'affronter directement, Américains et Iraniens se livrent à une guerre de harcèlement dans tout le Moyen-Orient et plus spécialement en Irak où sont stationnés 5200 GIs. Les milices pro-iraniennes comme les brigades du Hezbollah visées par les dernières frappes américaines s'en prennent régulièrement aux intérêts de Washington. Depuis octobre dernier, 11 attaques ont ainsi été menées, y compris dans la zone verte, quartier ultra sécurisé de Bagdad où est installée l'ambassade américaine. La méthode la plus courante utilisée par les alliés de Téhéran en Irak est une bordée de roquettes plus ou moins précises, avec à chaque fois un message clair à la clé. Plus Washington fera pression sur la République islamique et plus cette dernière activera ses réseaux hors du territoire iranien pour porter des coups aux intérêts des États-Unis dans la région. Mais cette fois-ci, la mort d'un ressortissant américain dans une attaque contre une base à Kirkuk vendredi dernier a déclenché les foudre le Washington qui a répliqué avec ses bombardiers F-15. Nous n'accepterons pas que la République islamique d'Iran mène des actions qui mettent des femmes et des hommes américains en danger, a justifié Mike Pompeo, le secrétaire d'État, après la riposte contre les milices pro-iraniennes. Dans cette guerre asymétrique où chaque camp répond coup pour coup, cette double opération militaire alimente encore un peu plus une tension déjà maximale, et ce, à quelques jours de la 5e phase de désengagement de l'Iran de l'accord de 2015 sur le nucléaire.
Et nous partons maintenant en Ukraine où l'heure est au soulagement après l'échange massif de prisonniers qui s'est déroulé ce dimanche entre Kiev et les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, en guerre depuis bientôt 6 ans. Un échange qui marque une désescalade avec Moscou dans ce conflit armé. Mais le débat du moment tourne autour de la décision prise par le président Zelensky de libérer 5 policiers accusés de l'assassinat de 48 manifestants durant la révolution de Maïdan. On retrouve donc à Kiev notre correspondant Stéphane Siohan. Bonjour.
Bonjour.
Alors Zelensky assume complètement sa décision, mais le jeune président a quand même pris un risque politique extrêmement lourd.
Oui, tout à fait. Vous savez, après avoir accueilli les prisonniers à l'aéroport de Kiev, Volodymyr Zelensky a commenté pour la première fois sa décision de libérer les fameux Berkout, les policiers tueurs de la révolution de Maïdan. Le président a ainsi justifié « J'ai fait le choix de la vie. Il estime qu'il ne peut pas faire revenir les morts, mais qu'il a rencontré les familles des victimes de Maïdan, mais qu'il peut encore sauver des vies mises en sursis par la guerre. » Il s'agit là d'un choix politique extrêmement fort, et à cet égard, celui qu'on a longtemps caricaturé comme un simple comédien est en train de prouver qu'il est un homme courageux, doté d'une réelle empathie, d'un sens de l'humain. Il est capable de prendre des décisions difficiles. Il est tout simplement en train de se muer en véritable homme d'État. Seulement, l'opinion publique est extrêmement partagée. Bien entendu, une grande partie de la population saura gré à Zelensky d'avoir permis à des familles de se réunir. Le retour des prisonniers est d'ailleurs considéré dans les sondages comme l'événement principal en 2019. Mais seulement voilà, toutes les décisions que doit prendre Zelensky sont dictées par des conditions imposées par un seul homme, Vladimir Poutine, qui voit dans ce processus un moyen d'exercer une pression politique sur l'Ukraine. Ainsi, pour libérer Oleg Sentsov, en septembre dernier, Zelensky a dû livrer à la Russie un suspect dans l'affaire du crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines. Cette fois-ci, le Kremlin a fait de la surenchère. Pour obtenir ses prisonniers, l'Ukraine a dû livrer à la Russie 5 policiers accusés de meurtre, un groupe de terroristes et un tueur de Tchétchènes opérant sur le territoire ukrainien. Pour cela, avec les meilleures intentions du monde, Zelensky a dû renoncer au principe de l'indépendance de la justice. Il a forcé son procureur général à libérer des suspects en toute illégalité. Il a mis en danger l'état de droit auquel aspirent tant d'Ukrainiens. Et ce faisant, il fait de Vladimir Poutine le véritable maître du jeu.
Stéphane Sion, en direct de Kiev pour France Culture. Vous vous souvenez peut-être du tollé provoqué l'an dernier par la mise au monde des premiers bébés génétiquement modifiés, une première mondiale. Eh bien, le chercheur chinois qui avait modifié l'ADN de ses jumelles pour les rendre résistantes au virus du sida vient d'être condamné à 3 ans de prison. Sur place, notre correspondante Angélique Forget.
C'était avec beaucoup de fierté que Ro Jiankui avait présenté fin 2018 ses travaux. Le généticien s'était même exprimé à la télévision parlant d'une grande première et d'un exemple pour ce que l'on pourrait faire ensuite. Aujourd'hui, le tribunal de Shenzhen, dans le sud du pays, le reconnaît coupable de pratiques illégales et le condamne à 3 ans d'emprisonnement et près de 380 000 euros d'amende. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui a pu assister au procès, révèle que le tribunal lui reproche d'avoir cherché l'argent et la gloire et d'avoir ainsi violé la loi en matière de recherche scientifique. Avec cette condamnation, les autorités chinoises espèrent prouver leur bonne foi. Pékin assure n'avoir jamais donné son accord aux scientifiques pour qu'ils mènent ces travaux. Officiellement, la Chine, comme la plupart des autres pays du monde, interdit formellement les manipulations génétiques sur l'homme. À l'époque, de nombreux scientifiques estimaient que cette annonce risquait de nuire à la réputation de la science chinoise.
En Corée du Nord, Kim Jong-un avertit les dirigeants du parti au pouvoir que le pays connaît une grave situation économique. Il appelle à la mise en place de mesures d'urgence pour y remédier, des propos rapportés par des médias officiels. Après plusieurs jours de polémique, Gabriel Matzneff est brièvement sorti de son silence. Dans un message écrit aux Parisiens hier, l'écrivain âgé de 83 ans a défendu des attaques injustes et évoqué la beauté de sa relation avec Vanessa Springora. La patronne des éditions Julliard qui publie ce jeudi un livre sur sa relation avec l'auteur quand elle avait 14 ans. Baptisé « Le consentement », cet ouvrage dit tout l'inverse avec cette question posée par Vanessa Springora. Comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentante ? Cécile de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Ce livre, il remet en lumière, plutôt qu'il ne révèle, les agissements de Gabriel Matzneff, qui, à longueur d'ouvrage, a détaillé les relations sexuelles qu'il a eues avec de très jeunes mineurs, filles ou garçons. Alors, cette question se pose ce matin. Pourquoi cette affaire n'est-elle pas sortie plus tôt ?
Oui, parce qu'il faut rappeler que depuis les années 70, il a fait la promotion dans ses écrits de ses pratiques sexuelles avec des enfants de moins de 15 ans, en des termes parfois très explicites, comme par exemple dans Les Amours décomposés, publié chez Gallimard en 1990, où il raconte les fellations et les sodomies qu'il a fait subir à des enfants de 12 et 13 ans. Il n'a jamais caché qu'il écrivait ce qu'il vivait et qu'il vivait ce qu'il écrivait. Ce qui lui vaut d'ailleurs l'admiration publique de Bernard-Henri Lévy, mais aussi d'Alain Soral. Il est l'invité régulièrement pour en parler d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, à laquelle il participe 5 fois. Question d'époque, disent certains. Il est vrai qu'en 1977, Gabriel Matzneff est l'auteur d'une pétition qui demande la relaxe de 3 pédophiles. Pétition signée par 69 grands intellectuels français, dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Roland Barthes, André Glucksmann, Louis Aragon, Francis Ponge et d'autres comme Jack Lang ou Bernard Kouchner. S'il est remercié au journal Le Monde à la fin des années 80 pour son implication dans l'affaire de pédophilie du Corral, qui remonte au début des années 80, sa carrière d'écrivain, elle, n'a jamais pâti de cette pédophilie assumée, et ce, jusque très récemment. Son ouvrage, Les moins de 16 ans, est réédité en 2005. En 2009, il reçoit le prix Amic. En 2013, il est prix Renaudot dans la catégorie essai. Et ce n'est pas tout. L'écrivain qui habite dans un appartement de la ville de Paris reçoit également depuis de très longues années une allocation de la part du Centre National du Livre. Allocation qui est destinée par le ministère de la Culture jusqu'à la mort de l'écrivain. À la demande du ministre Franck Riester, aujourd'hui le CNL doit remettre un rapport complet sur ce dossier la semaine prochaine, car le ministre de la Culture a promis de prendre des mesures administratives. En attendant, reste une question. Pourquoi de tels écrits ont-ils continuer à être publiés, alors que d'autres écrits ont été, eux, objet de poursuites judiciaires, notamment pour promotion de la pédophilie.
Cécile de Kervas-Doué, on termine ce journal avec un mot de météo. Après la grisaille, de belles éclaircies attendues sur une bonne partie du pays, du côté des températures, de grandes variations selon les régions, avec des maximales comprises entre 3 degrés localement sur la moitié nord et 17 degrés des Pyrénées au littoral méditerranéen. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec le prochain journal de la rédaction, c'est présenté par Stanislas Bazac. Et tout de suite, on vous retrouve Raphaël Bourgois pour la Grande Table des Idées.
Merci Anne-Laure Jumet et vous, les prochains journaux d'information. Vous venez de le dire, c'est à 18h.